Bonjour, je suis Michel Font, fondateur de Nelta, cabinet spécialisé dans la formation des dirigeants à la communication, la prise de parole en public, la prise de décision en environnement VUCA et au design de programmes de talent management. Bienvenue dans Talent Factory, notre podcast dédié aux talents, aux leaders et à ceux qui les accompagnent. À travers ce podcast, nous réalisons des portraits, des focus, des débats, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font le talent management pour partager les bonnes pratiques, anticiper les tendances et confronter les points de vue. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cet épisode que nous en avons pris à l'enregistrer. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans la séquence Grand Témoin de Talent Factory by Nelta. Après Laurent Chouin de Mazars en 2020, Jean-Claude Legrand en 2021 de chez L'Oréal, après Thierry Bonnetto de Danone et Senior Advisor Nelta en 2022, Mathieu Birac de Doctolib en 2023, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sarah Benhalel, Chief People Officer de Conto. Sarah, bonjour et bienvenue dans Talent Factory.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Sarah, comme tu le sais, à travers cet épisode, c'est le premier de 2024, nous allons aborder trois grandes thématiques. Ta trajectoire pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Ta vision, tes conseils sur les enjeux, sur les tendances de développement des talents, des dirigeants. Et puis, tes bons plans pour partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques que tu auras envie de partager avec des pairs. Mais pour commencer, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire comment on devient Chief People Officer de Conto, tout simplement?
Tout simplement, ou pas. Déjà, je viens juste d'être promu Chief People Officer. Les titres comptent beaucoup dans l'univers des startups et pas que.
Ouais.
Mais c'est vrai que les gens sont assez attachés à la manière dont ils évoluent dans leur trajectoire de carrière. Et donc, en fait, je viens juste d'être promue Chief People Officer. J'étais VP People. Ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est qu'en fait, je suis rentrée chez Conto. Mmh. J'étais HR Manager.
Ouais.
J'ai passé en fait un peu plus de 5 ans chez L'Oréal. Donc, je salue Jean-Claude Legrand de loin. Et après avoir fait du recrutement et été RH généraliste, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis, de voir les vrais RH, de savoir ce qu'était une convention collective, comment on montait des sujets from scratch, comment on était vraiment main dans la main avec des fondateurs pour construire sur la durée. J'ai eu, je pense, un peu de chance quand même de tomber sur Conto. Moi, j'ai une phrase qui me tient à cœur, qui est « choisir, c'est renoncer ». Donc, j'ai fait une candidature, c'était chez Conto, je suis arrivée chez Conto. Donc, j'ai été HR manager, il n'y avait rien, il fallait que je mette tout en place. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de grandir avec Conto. Aujourd'hui, je suis Chief People Officer, donc C-level, donc je suis en codir avec toutes les fonctions représentées de l'entreprise. Et donc, je gère une équipe de 65 personnes en RH. Quand je suis arrivée toute seule, on était 40. Aujourd'hui, on est 1300 collaborateurs dans 5 bureaux.
Oui, c'est ce que je vais te demander. Le ramp-up est juste incroyable.
Incroyable. C'est ce que je dis souvent et ce que beaucoup de Contoeurs disent. On est un peu schizophrène. Il y a un peu ce côté où on se dit, mais il se passe tellement de choses, tellement vite qu'on ne voit pas le temps passer.
Ouais.
Et en même temps, quand on prend un peu de recul, on se dit, mais... waouh, j'ai fait tout ça en 6 ans.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression d'avoir eu 15 ans d'expérience RH en 6 ans chez Conto. Et donc, voilà, aujourd'hui, Chief People Officer, c'est une... Déjà, je suis très heureuse d'avoir ce rôle. Je suis très épanouie dans mon rôle. Et c'est aussi une fierté pour plein de raisons. Je pense que je suis une jeune DRH qui s'est vraiment investie dans sa mission, dans son métier depuis le début. Et je me suis énormément remise en question, j'ai énormément appris. J'ai pas eu peur de me prendre quelques claques pour pouvoir rebondir.
Ouais.
Et voilà, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, voilà, je suis arrivée avec un rôle clé dans l'entreprise qui a énormément d'impact auprès de fondateurs que j'admire beaucoup. Et j'ai quand même eu 2 enfants, je me suis mariée, j'ai quand même une vie perso hyper épanouie.
Ça a pas été, t'as pas fait des choix de renoncement pour
j'ai
le coup qui
renoncé,
était sur ce versant-là.
Et donc voilà, je pense que la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui, c'est 2 points, et je les avais partagés avec mon équipe. La première, c'est la fonction RH, elle est cruciale dans l'entreprise et encore plus dans une entreprise qui croît très vite. Et la deuxième, c'est je suis une jeune femme, une jeune maman, et on peut aussi arriver.
Ben
et voilà, et donc c'est aussi une fierté de ce point de vue-là.
Quand on est comme moi, pas familier de l'intérieur de la vie d'une start-up, et quand on regarde de l'extérieur, la trajectoire qui a été la tienne, qui accompagnait celle de Conto, on passe de 40 à 1300. Moi, j'avais peut-être un parti pris avant qu'on se parle pour préparer cet épisode, qui était de te dire, en fait, tes journées, ça va être quasiment que du recrutement. T'amènes ta acquisition, t'amènes... Alors oui, il y en a, évidemment, on passe de 40 à 1300, mais quand on a parlé, il y a beaucoup de choses que tu as mis en avant qui ne sont pas que ça, loin de là. On a beaucoup parlé de culture. Alors, la culture d'État aussi, sur le processus de talent acquisition. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand tu me l'as raconté. On s'est parlé le lendemain de votre soirée de Noël, au mois de décembre. Et tu me parlais de l'anecdote de cette jeune fille, déjà qui ne savait pas que vous étiez les patrons de la boîte, qui a débarqué dans la soirée, qui a vu un groupe de gens qui discutaient, qui venaient se joindre à vous, qui n'avait pas compris que vous étiez les dirigeants, ce qui dit aussi quelque chose de la culture. Et deux, qui vous a raconté qu'elle était venue là. Alors, je te laisse en parler, parce que moi, je vais aller trop vite à la fin.
Ouais, c'est marrant que tu pointes cette anecdote, parce que j'avais, tu vois, il y a des anecdotes qui arrivent, tous les jours, on vit des choses fascinantes, et donc j'avais presque un peu oublié, mais effectivement, c'est assez marquant. Déjà, effectivement, ça pointe du doigt le côté non hiérarchique de la culture de Conto, très abordable à tous les niveaux, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à la fois un marqueur de Conto, des startups, je pense, en général, et quelque chose qui est très attendu par les nouvelles générations et donc voilà, c'est un vrai avantage pour nous. Et cette jeune femme, effectivement, qui du coup s'est retrouvée parmi nous, donc on était tout le codir, on trinquait un peu à l'année, puis elle était là, et donc je lui dis, mais tiens, tu prends quel job, qu'elle me raconte un peu, et je lui dis, mais comment t'es arrivée là? Et donc elle me dit qu'en fait elle a un ami qui a passé tout le process de recrutement, qui n'a pas été pris, mais qui lui a dit à quel point le process avait été incroyable, et donc elle-même a décidé de postuler. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper fort, parce que je sais que mon équipe Talent Acquisition est incroyable, mais là, je me suis dit, ils font quand même un job de fou, parce que l'expérience candidat est tellement soignée, en tout cas on essaye, peut-être qu'il y a des loupés parfois, mais on essaye vraiment de maximiser l'expérience candidat, de montrer qui on est, ce qu'on est, comment on travaille, etc., de donner envie, et voilà, et ça a marché, donc ouais, c'est assez représentatif de qui on est.
Ouais. Dans tes autres chantiers dont on avait discuté, ce qui m'avait frappé, c'est une phrase que tu as prononcée en me disant, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut accompagner cette croissance en essayant de ne pas créer trop de process non plus, de garder, alors je ne sais pas si on dit l'agilité de la jeunesse ou de l'époque où vous étiez peut-être 40 dans un garage, je caricature. Comment tu as réussi ça? Comment tu te bats pour réussir à accompagner une croissance dont il faut structurer nécessairement, sans tuer la dynamique?
C'est une bataille de tous les jours. Déjà, c'est une vraie prise de conscience au niveau du coup du comité de direction, de vouloir vraiment se remettre en question en permanence. Donc il y a cette culture, on parle de la culture, mais cette façon de travailler chez Conto qui est comment on s'améliore, la culture de l'amélioration continue, et ça vaut pour tous les niveaux, pour toutes les fonctions. C'est génial de mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux process, mais en fait, quel impact ça a, aussi positif que négatif, est-ce qu'on se remet un peu en question sur tout ce qu'on peut sortir au quotidien? Donc il y a à la fois une prise de conscience, je disais, et une vision à installer. Et moi, typiquement, je l'ai dit, c'est écrit noir sur blanc, ma vision pour mon équipe cette année, c'est comment on valorise la qualité versus la quantité. Ouais. Et souvent, il y a un peu cette course, comme on est dans une dynamique de croissance, on ajoute des personnes qui viennent renforcer les équipes avec des nouvelles expertises, donc on peut lancer plus de projets, etc. Et souvent, on oublie qu'il y a plein de choses qui sont les basiques, qu'on fait peut-être pas très bien, et qui sont des vrais cailloux dans les chaussures de tous nos managers et de tous les comptoeurs. Et donc, voilà, il faut trouver la bonne balance entre on sort des nouvelles choses, mais on sait aussi s'arrêter pour se dire là, ça va pas, ce sujet-là, il n'est pas maîtrisé, comment on va investir plus de temps, comment on va simplifier pour que l'expérience de tous nos collaborateurs soit la meilleure possible.
Ouais. Tu as quelques exemples comme ça d'irritants que tu as déjà identifiés chez 2024 où tu te dis là, on peut libérer du temps de manager, de l'énergie, améliorer l'expérience, des choses
Là, par exemple, on a identifié un sujet assez précis et en même temps qui regroupe pas mal d'outils RH, c'est comment on fait gagner 20% de temps de manager lors des progress reviews, donc des revues de performance de fin d'année. Parce que dans ces revues de performance, il y a cette notion d'évolution de salaire avec des notions de process de budget à respecter. Il y a toutes ces notions de promotion. Il y a toutes ces notions d'évolution des compétences, d'établir les bonnes formations. Donc, il y a tout un panel. C'est un moment assez important dans l'année. où on va parler de beaucoup de produits RH. Et à ce moment-là, là, on pense que typiquement cette année, on s'est dit, là, ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on essaye de prendre aussi le feedback terrain en se disant, est-ce qu'en fait, on est en train d'ajouter de la valeur pour nos clients ?
Ouais, c'est ça.
Donc, tu parlais de culture tout à l'heure. On vient de réajuster nos valeurs chez Ponto. Nos valeurs, elles avaient 6 ans. Enfin, ouais. depuis que je suis arrivée, c'était un des premiers sujets qu'on avait travaillé avec les fondateurs. C'était vraiment venu des fondateurs. Et, bon, là, on avait ces valeurs. Et là, on a remis customer focus. Donc, vraiment concentré en priorité sur nos clients comme notre première valeur.
Ouais.
Ça paraît être du B.A.B.A., ouais. mais c'est tellement important parce que parfois, on se perd dans les méandres de tous les projets et on s'auto-congratule de tout ce qu'on peut faire, mais en fait, on oublie les clients qui
n'a
pas eu de réponse à sa question, qui est bloqué avec son compte, etc.
Ouais,
etc. Et en fait, c'est ça l'objectif. C'est que nos clients ils soient contents, qu'ils puissent recommander Ponto et que le business continue de grossir. Sinon, tout le reste n'a pas d'importance. Et donc, du coup, comment en fait on amène cette conscience business aussi sur des fonctions support comme des fonctions RH et de ne pas se perdre, parce que nous, on a un peu les deux volets. Il y a les grandes tendances RH qu'on voit émerger. Donc, on va pouvoir débattre pendant, et on en reparlera peut-être, mais pendant des heures de « Ah, mais est-ce que c'est bien la semaine de 4 jours ?» Mais c'est positif, c'est négatif, etc. Mais en fait, il y a une réalité business derrière. Il y a les clients. Et en fait, c'est d'abord, concentrons-nous sur de quoi nos clients ont besoin. Est-ce qu'on est en train de servir le business avant de se poser des grandes questions philosophiques? Voilà. Et donc, il y a comment on ramène de la simplicité et du pragmatisme aussi, parfois, dans ce qu'on peut faire.
Ouais. Dans ces ajustements de valeur que vous venez de faire, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un impact RH de ton point de vue dans les nouvelles que vous avez choisies ou celles que vous avez dépoussiérées ou rebrandées, je ne sais pas?
Oui, énormément. En fait, du coup, il y a des valeurs qu'on a gardées, la valeur de teamwork, de mastery, donc vraiment cette idée de maîtriser son poste. Et integrity, donc vraiment l'intégrité, c'est quelque chose de fondamental qu'on a gardé. Donc ces trois valeurs, on les a gardées. Et on a donc deux supplémentaires, être vraiment prioriser le client et l'ownership, donc vraiment la responsabilisation de tous les projets, du périmètre de chaque personne. Voilà, je prends l'ownership de tous mes sujets et je vais au bout des sujets. Et ça, on l'a rajouté pourquoi ? Parce qu'en fait, les valeurs, c'est quelque chose de fondamental pour guider les collaborateurs, pour savoir qui on est quand on vient de l'extérieur et pour guider les collaborateurs. Et en fait, l'entreprise, elle n'est plus la même quand on était effectivement 40 à maintenant. La notion d'ownership, il y a 6 ans, elle ne se posait même pas. Il y avait le moindre sujet, il y avait forcément quelqu'un pour le prendre. Le lendemain, c'était fait, on n'en parlait plus. Maintenant, à 1300, et qui fait quoi et quels sont les périmètres des uns, des autres, etc. Et ça, ce n'est pas à moi de le faire. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut ramener cette dimension-là. Et donc, ce qui est intéressant avec les valeurs, c'est comment on peut, grâce à la mise en place de notions assez simples, remettre au centre ce qui est le plus important, ce qu'on pense le plus important pour nous faire réussir. Ouais. Et au-delà des valeurs, on a, parce que pareil, on est 1300 et que du coup, ownership, c'est teamwork, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Donc, on a clarifié les définitions, on a donné des exemples et on a travaillé ce qu'on appelle les leadership principles. Donc là, c'est des actions concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement sur le terrain? Typiquement, on a mis un leadership principle qui est être quelqu'un qui donne de l'énergie. On veut que les gens chez Ponto donnent de l'énergie. C'est très compliqué de travailler et d'avoir des gens en permanence qui se plaignent de tout, ça va pas, etc. On a le droit de se plaindre, mais on propose des solutions. Et voilà, donc c'est beaucoup plus tourné sur les attitudes et les comportements, mais ça va vraiment aider à ramener tous les collaborateurs vers des comportements qui sont pour nous essentiels pour réussir.
Moi, j'adore le concept de dire donner de l'énergie, etc. Est-ce que vous accompagnez les gens sur comment vous faites ça, sur l'environnement concret qui aussi peut-être fait qu'on est plus à l'aise pour donner de l'énergie, on crée un cadre, on crée un contexte qui favorise cette émergence-là. Comment tu l'accompagnes, ça, sur un plan RH, ou par de la formation, ou par de... Comment tu fais ça?
Alors, donner de l'énergie, on n'a pas encore monté le module de formation sur être positif et donner de l'énergie, mais il y a des choses assez, assez concrètes sur... je parlais de la notion d'amélioration continue.
Ouais.
Cette idée de, voilà, toujours se poser la question de comment je peux faire mieux.
Ouais.
On a un autre leadership principle qui est... en français, désolé, ça sonne toujours moins bien.
Mais t'inquiète.
Bon, répéter, c'est une manière... Répéter nos gestes, c'est... Nos tâches, c'est une manière de devenir meilleur dans ce qu'on fait. Et typiquement, ça, c'est quelque chose que les gens oublient un peu. On a quand même, je ne veux pas faire de généralité sur les générations, mais on est quand même dans un monde qui va très, très vite, où les gens veulent faire beaucoup de choses très rapidement, évoluer très rapidement, gérer plus de choses très rapidement, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est en faisant plusieurs fois qu'on devient meilleur.
Ouais.
En tout cas, on oublie ça. Parce qu'en fait, bah, quand on fait un ticket client, on n'est peut-être pas très bon, mais quand on en fait 100,
ouais,
on sait ce qu'on répond et on sait que derrière, on va être hyper précis au mot près. Donc, il y a un peu cette idée-là. Évidemment, l'idée, c'est pas de tomber dans le taylorisme pur, chacun une tâche précise, etc. Mais vraiment, alors, cette idée de comment je peux m'améliorer. Et derrière, ce qu'on met en place comme moyen, cette notion d'amélioration continue, ça va être, par exemple, on a en interne deux personnes qui vont coacher les équipes au quotidien sur le terrain. Alors, nous, on est inspiré des méthodologies Lean.
Ouais.
Et donc, voilà, on a des lean officers qui sont là et qui vont venir nous expliquer, OK, comment je me remets en question?
Oui.
C'est quoi le modèle que je peux suivre, le framework que je peux suivre pour, en fait, me remettre en question, analyser la situation et mettre en place des choses nouvelles? Donc, on a, par exemple, voilà, des choses très concrètes. Et après, on fait énormément sur la formation. On a des budgets colossaux sur la formation, sur à la fois le développement des managers, le développement individuel, plutôt les hard skills, donc des compétences très, très techniques. Ouais, c'est important. C'est clé pour que les gens puissent continuer à grandir.
Ouais. Quand on avait parlé en préparant de tes grands chantiers du moment, tu m'avais dit qu'il y en a un qui a émergé, il y a eu toute la phase, il a fallu recruter beaucoup. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure en disant la qualité maintenant, on travaille bien la qualité plutôt que la quantité. Tu m'avais dit que ça fait un petit moment que le talent management devient un sujet, comment on s'occupe des gens qui sont là. Est-ce que c'est celui-là que tu veux développer? Est-ce que tu as d'autres grands projets en cours dont tu veux nous parler, qui sont pour toi les chantiers structurants au moins à partir de 2024, même si ça peut durer un petit peu plus que ça, mais c'est quoi ton agenda des prochains mois, des prochaines années?
Alors, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais été étonné qu'effectivement la partie recrutement n'était pas 80% de mon job. J'ai toujours du mal à faire 100% de mon job, parce que je dis, oui, je fais 80% de recrutement, puis je fais 20% de ça, puis 20%. Ah non, en fait, ça fait plus de 100%, donc ça va pas, il faut que je revoie les ratios.
C'est et rajoute le fait d'avoir deux enfants au milieu qui comptent voilà, déjà 40% de ton temps.
Exactement. Ouais. Mais donc, du coup, le recrutement, ça reste une place centrale. Hein. Enfin, sur 65 personnes dans mon équipe, j'ai quand même 25 recruteurs, donc c'est quand même une grosse équipe. Surtout que la stratégie de Conto, c'était comment on internalise au maximum notre stratégie de recrutement. Donc, pendant très longtemps, là, on réouvre un peu les vannes, mais pendant très longtemps, on avait zéro cabinet de recrutement sur nos recrutements. Donc, on faisait tout en interne.
Ah oui.
Parce que justement, ça nous permettait de garder la main sur cette expérience candidat, de pouvoir vraiment être proche du business, savoir ce que les managers voulaient, etc. Bon, voilà, là, on est un peu dépassé, donc on est obligé d'avoir un peu de support externe. Mais donc, oui, au fur et à mesure des six années, en fait, j'ai construit différentes expertises selon le bon moment et le bon niveau de maturité. Je pense que un point important pour les DRH, c'est que on a souvent un idéal d'organisation. On sait tous que la partie compensation and benefits, c'est clé. On sait tous que la partie L&D, learning and development, c'est clé. Mais les questions que moi je me suis posées sur les six dernières années, c'est quand est-ce que je mets en place ces fonctions-là?
Ouais.
Quand est-ce qu'elles sont nécessaires pour l'organisation? Et donc voilà, au fur et à mesure, donc on a eu de plus en plus d'expertise. Donc oui, aujourd'hui j'ai une équipe assez étoffée avec des expertises différentes. Je parlais du Comp & Ben, je parlais du L&D. On a une personne qui est responsable sur les projets diversité et inclusion. Oui, on a une personne dédiée sur l'onboarding. Oui, on a une personne qui est dédiée sur la gestion de la data et toute l'automatisation de nos process. Oui, on a des personnes sur le talent management, sur les projets de talent management. Donc, tout ça, c'est, voilà, ça s'est mis en place au fur et à mesure. Et effectivement, il y a un vrai sujet qui est, on fait rentrer beaucoup de monde. Il y a aussi des gens qui partent. On a un taux de turnover qu'on aimerait voir un peu plus bas, mais il est loin d'être catastrophique. Mais c'est toujours très dommage et très coûteux de voir recruter des gens, les onboarder, les former et puis de les voir partir un peu trop tôt. Et je pense que la croissance de Conto accélère aussi beaucoup la durée qu'on passe chez Conto. Et accessoirement, on est quand même très bien vu sur le marché. Donc, on est aussi quand même un peu une école où on vient récupérer les différents profils. Mais bon, à la limite, ça, on peut tourner positivement.
Succès, ouais, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et donc, le talent management, oui, c'est du coup comment on va faire en sorte déjà de bien mesurer l'engagement, de s'assurer que les gens sont bien et de savoir si on travaille sur les bonnes priorités, de travailler sur des vrais plans de formation, de travailler sur des vrais plans de comment on retient nos talents, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est quand même des sujets que je veux plus adresser. Après, il y a un sujet qui n'est pas hyper innovant sur la manière de gérer les RH, mais c'est le rôle du HR VP. En fait, il y a pas mal de débats. J'ai lu pas mal et j'ai eu des discussions avec des DRH ou d'ailleurs des opérationnels qui remettent un peu en question ce rôle. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un HR VP dans une organisation? Alors moi, je suis intimement convaincue que oui, c'est clé, et surtout dans une organisation qui grossit très vite, parce que malheureusement, le manager qui est pour moi la première ligne RH, en fait, un manager et un RH par définition, en fait, ne peut pas tout prendre à bras le corps, effectivement. Donc, il a besoin de support, il a besoin de garant, il a besoin de phare dans la nuit, et souvent, c'est quand même le HR VP. La différence, enfin, on va dire la chose qui change un petit peu et la vision que j'essaye d'apporter dans l'équipe, c'est comment on passe d'une fonction HR VP très en réaction. J'ai un problème avec mon manager, je me pose des questions sur le fait que j'ai envie de rester ou pas, de m'en dire chez Ponto ou pas, à un maximum d'anticipation. Et à la fois, donc il y a cette vision de réaction versus anticipation, et aussi la différence entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que la puissance du HR VP, c'est aussi quelqu'un qui peut accompagner les problématiques plus globales d'un département ou d'un métier, et notamment les sujets organisationnels.
Ouais.
Et ça, ou les sujets de change management. Et ça, c'est des sujets sur lesquels les HR VP sont peut-être un peu moins équipés au départ. Ils sont très concentrés sur les sujets individuels. Et ils sont plutôt très bons là-dessus, en règle générale. Et franchement, pas que ceux dans mon équipe, ceux que je rencontre sur le marché. Franchement, j'en ai rencontré plein. J'ai été moi-même HR VP, donc je sais ce que c'est. Et là, c'est vraiment cette idée de comment on les positionne en vrai business partner, mais avec cette notion du collectif et cette notion de vision globale, vision d'ensemble et vision organisationnelle. Donc, un de mes enjeux en 2024, c'est comment on accompagne l'efficacité des organisations.
Ouais.
Parce qu'on se rend compte, dans une entreprise qui croît comme Ponto, que plus on crée des strates, plus on recrute des gens, plus on grandit, plus on rajoute de la complexité, on en a parlé. Et donc, on doit, à un moment donné, faire attention à comment on structure les équipes. Est-ce qu'on a la bonne manière de structurer les équipes? Est-ce qu'on regarde si les gens sont suffisamment, évidemment, heureux et engagés, etc., mais aussi productifs? Comment se passe le revenu par employé, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est un peu les nouveaux KPIs qu'on va regarder en RH, notamment en partenariat avec la finance, pour s'assurer qu'on a des organisations saines. Parce qu'une organisation qui n'est pas saine, ça peut vraiment planter une boîte.
Ouais.
Et donc ça, c'est typiquement un enjeu que je peux avoir en 2024 aussi. Donc il y a talent management, organisation avec une vraie transformation du rôle de HR VP. Et si je dois en citer un dernier, je pense que c'est dans les grandes tendances RH qu'on voit. Il y a deux points qui marquent. C'est toutes ces notions de, à la fois d'intégrité, de transparence, comment les gens font vraiment partie de la stratégie de l'entreprise, comment ils ont une voix, qu'on les entende, qu'on ait les sujets de transparence de salaire, etc. Tout ça, c'est quand même des sujets qui sont très, très présents. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue de comment on les adresse, en l'occurrence chez Ponto, et quelles sont nos convictions sur les sujets.
Ouais.
Et il y a toutes ces notions de flexibilité quand même qui sont très, très, très présentes. Et qui sont très difficiles à adresser, je trouve, pour un DRH, parce que chaque personne est différente, chaque personne a ses propres contraintes,
ouais.
Et c'est très difficile de créer du collectif sur des problématiques individuelles. J'ai 4 enfants, j'habite à 1 heure de Paris, qu'est-ce que vous me proposez en termes d'organisation de travail? Et ce ne sera pas la même problématique qu'une autre personne à côté, et qu'une autre encore, etc. Et donc, on se retrouve un peu dans OK, c'est quoi notre politique de télétravail?
Ouais.
En fait, est-ce qu'elle va vraiment satisfaire tout le monde? Et qu'est-ce que je peux proposer à ce que ce soit équitable pour tout le monde, que tout le monde soit satisfait? Donc, il y a quand même ces enjeux-là de maximiser la flexibilité en restant quand même assez. Avoir une certaine unité.
Ouais, tu barres-toi avec 1300 politiques RH.
Exactement, au niveau de l'entreprise.
Ouais. J'entends entre lignes que c'est à la fois ta feuille de route 2024 ayant aussi en partie des convictions et des tendances qui arrivent, et de toute façon, tu vas devoir les adresser.
Tout à fait.
Tu as la chance d'être à la confluence entre l'écosystème RH et puis l'écosystème startup. Est-ce que tu vois arriver d'autres tendances, même si elles ne sont pas encore sur ton bureau ou dans tes priorités, dont tu te dis elles vont venir nous percuter, nous, entreprises tech, RH, dans ton secteur? Parce qu'on avait parlé, tu m'avais dit aussi, il y a des contre-pieds à prendre sur ces tendances quand on parlait en décembre, en me disant à l'époque, le 100% de télétravail, la semaine de 4 jours, c'est des choses sur lesquelles peut-être parfois il faudra prendre des contre-pieds.
Alors, ces contre-pieds, en fait, c'est pas forcément contre-pieds, c'est plus se forger des convictions.
Ouais.
C'est très difficile de plaire à tout le monde. Comme on a des enjeux de recrutement, on veut attirer le plus grand nombre, mais on veut pas non plus se travestir. Et je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est important pour Conto et ce en quoi on croit. Et je pense que par rapport à toutes les tendances RH et toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui sur la table, et je reviens en fait à ma phrase de départ, choisir c'est renoncer.
Ouais,
mais fait, il faut choisir nos combats. Il faut choisir les choses qui sont les plus importantes, ce en quoi on croit, parce qu'il n'y a pas de théorie parfaite.
Ouais, genre...
La politique de télétravail parfaite, personne ne l'a trouvée. En revanche, il y a des convictions. Chez Hermès, il y a zéro télétravail. Bah voilà, ça fait partie de la culture d'entreprise, c'est comme ça. Il y a plein de boîtes où c'est 100% télétravail. Il y en a, c'était 100%, puis ils y reviennent.
Ouais.
Donc il faut qu'on se dise ce en quoi on croit, et en fait, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et donc, oui, je parlais de la tendance de cette idée des 4 jours par semaine. C'est marrant parce que on fait donc une enquête d'engagement tous les 6 mois, et on a donc des questions fermées ou qui nous permettent de récolter de la data assez quantitative. Et puis, on a quand même des questions ouvertes sur voilà, les 2-3 choses, si vous aviez 2-3 éléments à changer chez Conto ou à mettre en place. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, la semaine de 4 jours revenait.
Ouais.
Et moi, je suis intimement convaincue, enfin, et peut-être que je me trompe, en tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui, c'est que je pense que les gens se trompent de sujet. C'est une tendance qu'on voit émerger sur le marché. Mais le sujet, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est la flexibilité. C'est comment, en fait, le mode de travail que j'ai correspond à mes attentes personnelles. Ça ne veut pas forcément dire la semaine de 4 jours. En tout cas, ce que ça dit, moi, enfin, ce que j'analyse en tant que DRH, c'est, en fait, on a quand même besoin d'adresser ce sujet de flexibilité. Mmh. Et donc, comment on le fait? Et c'est un sujet difficile parce qu'on va vite. On a besoin de toujours plus, on a toujours de plus de monde, etc. Donc, en fait, entre la vitesse et les enjeux business et tous ces apports de flexibilité, de bien-être au travail, etc., qu'on veut absolument adresser et qu'on adresse avec plein de choses chez Conto déjà aujourd'hui, bah voilà, il faut trouver la bonne balance. Et je trouve que typiquement, moi, ma conviction sur la semaine de 4 jours, c'est que c'est un peu une fausse tendance. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend aujourd'hui les entreprises où on a des contrats, pour la plupart des contrats cadres, on a quand même en France, en l'occurrence, le forfait jour.
Ouais.
Le forfait jour ne vous contraint pas à des horaires précis.
Ouais.
La majorité des gens avec qui on travaille, et ce n'est pas que les niveaux de direction, etc. Quand vous avez un rendez-vous chez le médecin entre midi et 14h ou même à 16h, en fait, vous allez le faire et vous rattraperez après, etc. Donc, en fait, c'est comment on met ce niveau de confiance et de flexibilité pour que les gens ils fassent ce qui est important pour eux, mais qu'ils continuent à être au bon niveau d'engagement, avec un super niveau d'exigence et qu'ils délivrent ce qui est demandé. Donc, quand on s'est dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sur quoi on doit travailler, c'est un, comment on crée ces conditions de confiance, comment on a... Mais en fait, je te fais confiance. Si tu veux aller chez le médecin à 16h, tu vas chez le médecin à 16h. Si en fait, tu as un train à 17h30 un vendredi, c'est pas moi qui vais te dire t'es pas connecté à 18h. En fait, c'est pas le sujet, c'est plus le sujet. En revanche, moi, là où je vais être, où je vais te challenger en tant que manager ou en tant que DRH, c'est en fait, tu as ces objectifs-là à atteindre. On s'est mis d'accord sur la feuille de route. Est-ce que tu les atteins, oui, non? Comment on va suivre ces atteintes de performance? Donc, il faut qu'on soit fort en tant qu'RH dans... On met le système pour bien, pour le performance management, c'est quand même des sujets qui sont aussi hyper clés. Comment on met ce système, comment on équipe les managers pour pouvoir suivre la performance des gens, peu importe s'ils sont dans aucun coin du monde, peu importe s'ils sont en télétravail ou pas en télétravail, peu importe s'ils sont en forfait jour ou pas en forfait jour. Et donc, pour qu'il y ait une notion qui soit la plus tangible, la plus concrète, que ça ne laisse pas place à la surinterprétation et que voilà, on crée un climat sain de confiance. tourner vers les objectifs.
Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui est un jeune collaborateur de Conto d'ailleurs, un jeune talent, enfin bref, quelqu'un qui veut prendre sa carrière en main, qui se dit « je ne vais pas attendre que ça me tombe tout cuit ou qu'on me donne des programmes clés en main, développement, etc. » Comment on peut faire quand on est actif, volontaire, pour augmenter son niveau d'awareness, de talent, de formation? Il faut quoi? Il faut lire? Il faut être curieux? C'est quoi les conseils qu'on donne à quelqu'un qui veut se développer?
Alors, j'en ai plein, mais si je dois en citer quelques-uns, je pense que là, comme ça, j'en dirais deux. Le premier, il faut prendre son destin en main.
Ouais.
On est le maître de notre destin. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que c'est son manager qui va nous proposer les petites formations qui vont bien pour être content, et que c'est son RH qui va nous trouver le prochain job rêvé. Tiens, en fait, non.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu te lèves le matin? Il faut qu'on se pose tous ces questions-là pour prendre notre destin en main et effectivement être proactif sur son cheminement. Ça, c'est le premier point. Et du coup, ça se traduit par, oui, il faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe. Je sais pas, si quelqu'un fait du service client chez Conto, eh ben libre à lui de regarder tous les postes ouverts sur le site Conto, d'aller parler avec telle personne et telle personne pour comprendre comment bossent les autres équipes, et qu'ils se disent « Ah, mais en fait, moi, je me vois bien dans ce job-là. Tiens, et si j'en parlais à ?» Et en fait, ça change complètement la donne. Après, je dirais que le deuxième, c'est le talent, c'est l'audace. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, je crois que c'est Jacques Brel qui disait ça, donc plus quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde du travail et du business. Mais c'est plus pour dire que tout est possible quand on s'en donne les moyens.
Ouais.
Et souvent, il y a un peu un côté attentiste.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est vraiment français, ce mot.
Si, ça marche.
Et du coup, il faut oser. En fait, il faut oser. Exemple. Ah, je vais donner un très bon exemple, même à mon niveau, parce que en fait, c'est hyper marrant. Je suis très contente d'avoir été invitée dans ce podcast. Jean-Claude Legrand, je l'admire et je le connais, comme je disais. Et Laurent Chouin, je ne le connais pas, mais je l'admire énormément. Vraiment, à chaque fois que j'écoute ses podcasts, etc., je le trouve hyper inspirant. Je lui ai écrit.
Ouais.
Et je lui ai demandé s'il voulait intervenir.
Ouais.
J'organise une journée avec toute mon équipe RH. Et je lui ai demandé s'il voulait intervenir. Malheureusement, cette fois-ci, il n'a pas pu intervenir, mais il m'a répondu. Et il m'a dit « Avec plaisir, Sarah, la prochaine fois, je viendrai, etc. » En fait, je ne me suis pas dit « Tiens, c'est un DRH d'un grand groupe, il n'aura jamais le temps de me répondre, etc. » Non, en fait, j'ai envie qu'il vienne, donc je vais tout faire pour qu'il vienne. Et ça, je pense qu'il faut que les gens cultivent un peu cette notion-là d'audace pour y arriver. Et je dirais quand même un troisième.
Vas-y. Micro ouvert.
Le travail.
Ouais.
En fait, il n'y a pas de chance, il n'y a que du travail. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La valeur travail est quand même très importante. En tout cas, si vous avez envie d'évoluer et de réussir, tout le monde a sa perception du travail. Il faut respecter chaque vision. Il y en a qui n'ont pas envie d'une carrière mirobolante. Très bien, c'est tout à fait respectable. Il faut le savoir et l'assumer. Et pour ceux qui le veulent, c'est pas de la chance. Arrêtez de vouloir parce que je connais un tel qui connaît un tel, je pense que je peux avoir tel job. Non, c'est la méritocratie, le travail. Enfin voilà, ça, c'est des valeurs qui sont vraiment clés et qui, je pense, portent leurs fruits.
Toi, comment tu fais ça? Concrètement, t'as besoin d'avoir des idées, t'as besoin de te confronter, t'as besoin de garder les chakras ouverts. Comment tu te nourris? C'est par des rencontres? C'est par des lectures, et si oui, lesquelles ça nous intéresse? C'est par des podcasts, c'est par des cercles de réflexion, des événements RH. Comment tu cultives cette curiosité-là?
Tu as tout dit. Voilà, j'ai plus rien à ajouter.
Mais non, maintenant quoi? Lesquelles?
Alors, je pense que le premier rapport pour moi, c'est les rencontres. Mais après, c'est ma façon de fonctionner. Je suis quelqu'un qui suis très dans la relation, très dans l'échange, donc c'est important pour moi. Donc j'échange beaucoup avec plein de DRH, que ce soit de l'écosystème startup, mais aussi des grands groupes ou de PME plus familiales. Enfin, vraiment, j'essaye au maximum de rencontrer des gens en France, mais aussi à l'international. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est comment je m'ouvre les chakras sur, en fait, ça veut dire quoi construire une boîte à l'international. On l'est déjà, on a 50% de nos effectifs qui sont internationaux, genre pareil dans mon équipe RH, etc. Mais quand même, il y a ces enjeux-là de me connecter à des DRH de boîtes plutôt européennes ou autres. Donc les rencontres, ça c'est sûr, j'essaye d'y dédier vraiment du temps. Ensuite, je fais quand même, je participe à des tables rondes ou à des voilà à des réflexions. En tout cas, j'apporte ma petite pierre à l'édifice.
Ouais.
Et donc du coup, moi, ça me fait aussi grandir parce que du coup, je confronte mes points de vue, on échange des idées, etc. Donc là, on avait organisé une table ronde chez Conto sur est-ce que c'est la stratégie business qui fait la culture ou est-ce que c'est la culture qui fait la stratégie business. Enfin, là, c'était très intéressant comme angle. Et donc voilà, avec une agence qui s'appelle The Dots Agency qui accompagne les entreprises sur les évolutions de culture d'entreprise. Et ça, voilà, ça m'enrichit beaucoup. Et les podcasts, de manière très pragmatique, plus les podcasts que la lecture, parce que franchement, j'avoue qu'après une journée de travail et les enfants, j'ai la tête comme une pastèque. Donc, et je n'aime pas les livres de management. Ça, c'est très important.
Ouais.
Je n'aime pas du tout les livres de management.
Ouais.
Je trouve que c'est beaucoup trop long pour dire peu de choses. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je demande à l'un de mes fondateurs qui lit beaucoup de livres de management et qui me reproche de ne pas en lire, je lui dis de m'envoyer ses résumés et je vis très bien avec. Voilà. Non, parce qu'en plus, je trouve que c'est hyper important de prendre du recul et d'avoir des vraies méthodes. Et donc, les bouquins de management apportent ça, cette partie plus théorique qui est franchement très clé pour construire sa vision. Mais voilà, le résumé, la page de résumé me va tout à fait. Voilà. Et après, les podcasts.
T'en as deux, trois à citer qui te paraissent bien?
Un des derniers que j'avais écouté, c'était celui de... en plus, je les ai écoutés particulièrement pour venir.
Ouais.
Donc celui que je recommande...
Qu'on avait fait avec Laurent.
Celui de Laurent, particulièrement. Voilà, ce sera déjà...
On le remettra en commentaire pour qu'on puisse le récupérer.
Un bon départ, mais vraiment, écoutez-le. Il est passionnant sur sa vision du talent management.
Pour terminer, il nous reste deux questions rituelles qui terminent à chaque fois le podcast. La première, c'est celle de la patate chaude. Qui t'aimerais avoir à ta place dans un prochain épisode? Qui a des choses à raconter? Qui fait des choses intéressantes? Et puis, on terminera avec une question plus simple et plus légère. Est-ce que tu as une chanson préférée, celle qui te donne un peu d'énergie quand les enfants ont mal dormi ou quand tout simplement les journées pluvieuses ou neigeuses comme aujourd'hui? Comment tu fais pour te donner un petit peu de dynamisme? Et on mettra cette chanson-là pour se quitter tout à l'heure. Mais on commence par les patates chaudes. Qui tu voudrais voir autour de cette table et derrière ce micro?
Alors, j'ai réfléchi, et il s'avère que c'est le nom...
Alors, Laurent Chouin, c'est déjà fait.
Laurent Chouin, c'est déjà fait.
Jean-Claude Legrand aussi.
C'est déjà fait.
Voilà.
Donc, j'ai deux Émilie.
Oui.
Voilà. La première, c'est Émilie Benayad, qui est du coup la DRH du fonds d'investissement Serena.
Ouais.
C'est quelqu'un, déjà, j'adore sa vision, très belle vision RH, et on échange beaucoup, et c'est typiquement quelqu'un qui m'apporte pas mal de soutien, pas quotidien, mais quand j'en ai besoin, je sais qu'elle est là. Et si j'ai des questions, je sais qu'elle est là. Et elle a et son métier est par définition très intéressant parce que elle est DRH. En tout cas, elle soutient soit des DRH ou des fondateurs de plein de startups différentes, de différentes tailles. Donc, les enjeux RH qu'elle a au quotidien sont juste incroyablement riches. Et la deuxième. Émilie, du coup, parce que je focalise sur Émilie en ce moment. C'est Émilie Duquesne. Émilie Duquesne, qui a été ma manager chez L'Oréal quand j'ai démarré et qui a ensuite été DRH IMIA chez Tesla, ensuite DRH de Deezer. Et aujourd'hui, elle se met à son compte. Elle va faire du coaching et du training et de l'accompagnement RH et leadership. Et pareil, par rapport à son parcours et les différents environnements qu'elle a connus, elle a aussi une vision RH qui est intéressante à un.
Parfait, c'est noté. Et elles recevront bientôt leur carton d'invitation. Ta chanson préférée, on se quitte avec quoi?
Alors, ma chanson préférée, c'est...
Du moment, en tout cas.
C'est ma chanson du moment.
Voilà, c'est ça.
Parce que je suis allée voir une pièce de théâtre qui s'appelle « Oublie-moi ». Que je recommande, qui a une très belle histoire d'amour. Et ça m'a fait énormément plaisir d'aller au théâtre. C'est très longtemps que je n'étais pas allée au théâtre avec cet agenda de folie. Et donc, dans cette pièce, il y a une chanson qui est la chanson du groupe Sun, We Are Young, que j'adore. Et du coup, depuis qu'on est allé voir avec mon mari cette chanson, on la met tous les matins et on danse avec les enfants sur cette chanson. Donc voilà, c'est une chanson qui m'apporte beaucoup de joie.
Eh ben, on va se quitter avec ça. Merci beaucoup, Sarah. C'était passionnant.
Bonne
continuation à toi et bonne continuation à Conto. Et à très bientôt à vous toutes et vous tous qui nous écoutez pour un prochain épisode de Talent Factory by Nelta.
Merci beaucoup.
Merci à notre invité pour son temps et ses éclairages. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager avec un confrère, un ami, un collègue, un talent ou un voisin curieux. Vous pouvez également laisser des notes ou des commentaires sur les plateformes, ça nous fait toujours plaisir. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.